Voilà, donc je vous invite à poser des questions. À présent, il y a un micro baladeur qui peut circuler, qui est là.
Oui, bonjour. Je voudrais vous poser une question un peu abrupte. Pourquoi, semble-t-il, a-t-on laissé tomber des méthodes qui fonctionnaient De façon très concrète, quand je vois la génération de mes grands-parents, ce sont des gens qui ont eu accès à l'école pour la première fois et qui ont appris à lire, écrire, calculer, et qui calculaient mentalement mieux que moi et qui écrivent. Et toujours mieux que moi, qui est fait l'université. Voilà.
Je n'ai pas la réponse. L'argus que je peux répercuter, c'est l'argument en fonction duquel s'est opéré cet abandon. L'argument, c'est qu'il n'est pas vrai que ça marchait. Et que, en fait, ça marchait effectivement pour une petite proportion, qu'on peut évaluer différemment, de la population scolaire, et que ça laissait un grand nombre en dehors du coup. Et que donc, il fallait trouver d'autres méthodes plus inclusives, supposées permettre de toucher une population non seulement plus large, mais idéalement complète. Le programme nouveau qui s'est mis en place dans nos systèmes scolaires, c'est la lutte contre l'échec scolaire. C'est l'objectif prioritaire qui commande les politiques publiques dans le domaine de l'éducation. On ne peut pas dire d'ailleurs que c'est un succès éblouissant, mais c'est ça l'objectif. Et c'est là l'argument. Alors, c'est une question qui pourrait en un sens être éclairée par des études empiriques beaucoup plus poussées que celles qu'on a faites jusqu'à présent. Parce que, est-ce que c'était vrai? Quel était le taux d'échec de ces méthodes? On a assez de documents pour le mesurer assez précisément. Je ne connais pas de choses qui ont été faites dans ce domaine, mais ça serait faisable. Est-ce que ce taux d'échec était si supérieur à celui des systèmes que nous appliquons aujourd'hui? Voilà. Mais nous en sommes là, pour ne pas dire beaucoup plus.
Bonjour. Voilà, donc mon point de vue est plutôt celui d'un pédagogue. Alors, dans ce que vous avez dit, j'ai été réconforté par le fait que vous parliez finalement d'une fatalité, de la nécessité d'un apprentissage, d'une transition. Ça sauvera le boulot quand même des enseignants. Mais d'un autre côté, j'ai une question préalable. Est-ce que pour qu'un élève accepte, pour qu'un enfant accepte d'être apprenant, est-ce qu'il n'y a pas un certain nombre de conditions? Et il me semble que si la transmission est nécessaire, faut-il que l'individu fasse le chemin de devenir apprenant? Et autant apprendre et être exigeant, autant j'ai l'impression qu'être un apprenant et accepter d'être un apprenant est déjà un très long chemin. Parce que je me dis que là, derrière, il y a quand même l'acceptation de l'altérité. Et je pense qu'avec les problèmes de socialisation que nous avons, ce n'est pas toujours évident. Et accepter l'altérité, c'est aussi faire un chemin intérieur, d'intériorité. Est-ce que ce n'est pas finalement un très bon chemin que de devenir apprenant? Et quand on devient apprenant, il n'y a plus qu'à apprendre.
Vous mettez le doigt sur ce qui est la question nouvelle apparue dans nos sociétés et qui se présente sous la forme d'une injonction paradoxale pour les jeunes générations d'aujourd'hui. Devenir apprenant, c'est une question qui n'aurait eu aucun sens, même encore dans les années 1950 en Europe. S'il y a une chose qui était donnée pour aller de soi, c'est qu'il n'y avait pas le choix. On était apprenant, puisqu'on était entrant dans une société qui s'imposait avec ses codes, ses usages, ses règles, le bagage de connaissances indispensables pour l'existence dans les différents milieux sociaux, l'exercice d'une profession, l'appartenance à une nation, que sais-je. Il y avait une évidence du fait qu'il fallait, que notre condition était d'apprendre. Et apprendre voulait tout simplement dire être comme ses devanciers. Il fallait faire le chemin qui vous paraissait être pour être l'équivalent de ce qu'étaient vos parents, les gens de votre environnement. Il fallait s'identifier à la condition commune. C'était ni plus ni moins ça. La grande nouveauté sur laquelle vous mettez le doigt, c'est qu'en effet, ça ne va pas de soi. À partir du moment où le statut d'individu est posé comme le préalable à tout, il faut effectivement se mettre dans la disposition intérieure d'acquérir et d'apprendre, qui n'est pas donné naturellement. Donc c'est une question tout à fait nouvelle. C'est très important, parce que ce n'est pas une donnée générale de la condition humaine, c'est vraiment une question nouvelle surgie dans nos sociétés. Et quand je parlais d'injonction paradoxale, je voulais juste souligner que l'émergence de cette question nouvelle va de pair avec une généralisation et une radicalisation de l'obligation scolaire. Parce que dans nos sociétés, on dit aux enfants et aux jeunes deux choses qui ne vont nullement de soi ensemble. C'est à toi d'apprendre et de savoir ce que tu veux apprendre. Mais on leur dit aussi, il y a une chose à laquelle tu ne peux pas couper, c'est d'aller à l'école. Tu fais ce que tu veux, mais tu n'es pas libre de ne pas être scolarisé. Alors il y a évidemment une tension certaine entre les deux choses. Et ce n'est pas le moindre problème auquel nous avons affaire. Parce qu'après tout, la bonne logique de l'individualisation, ce serait de dire « tu vas à l'école si tu as envie d'y aller ». Mais ça... Pour d'autres raisons, c'est tout à fait exclu. Jamais l'obligation scolaire n'a été posée comme aussi impérative, aussi tôt, aussi longtemps. Bon. Ça crée pour le moins une tension considérable dans le système d'emblée.
Bonjour, j'aimerais que vous explicitiez un peu l'avantage, ce que j'ai cru comprendre comme une prise de distance vis-à-vis de ce que Bourdieu, Passeron nous ont appris, puisque j'ai cru comprendre tout à l'heure que vous mettiez justement en évidence la difficulté de l'accès au monde de l'écrit et des signes, en lien notamment avec l'origine familiale, etc. Donc, est-ce que vous pourriez aller un peu plus loin dans ce que vous avez évoqué tout à l'heure comme critique ? Merci.
Bien sûr. Je me suis contenté de mentionner la chose au passage et ça ne va nullement de soi. Il y a justement quelque chose il y avait quelque chose de très juste dans les observations formulées dans les héritiers en particulier, et qui a été, à mon sens, complètement gauchi dans la manière dont ils ont repris, quelques années plus tard, l'interprétation du phénomène dans la reproduction. Ce qui était très juste dans l'observation sur les héritiers, c'est l'espèce d'avantage que conférait la connaissance des codes des connivences culturelles, des savoir-faire qui permettaient aux enfants des milieux les mieux éduqués d'avoir des résultats spontanément supérieurs à ceux d'enfants qui arrivaient de milieux où cette connivence culturelle n'existait pas. Ils ont mis le doigt sur quelque chose de très juste, qui est précisément l'importance de ce que j'appelais, moi, les savoir-faire. À ceci près que là, il y a une chose et l'observation, autre chose est l'interprétation de ces phénomènes, dont ils se sont obsédés à donner une interprétation de classe. Et une interprétation de classe axée sur la culture littéraire, la dimension rhétorique, référée à l'arbitraire culturel, alors que les savoirs scientifiques, échappant à cet arbitraire culturel par la nécessité logique qui organise le résultat, eux, permettraient une plus grande transparence dans l'accès. En France, ça s'est traduit par un renversement radical d'orientation des programmes au profit des filières scientifiques, avec l'idée qu'elles étaient plus démocratiques, parce que les savoirs scientifiques étaient supposés comporter beaucoup moins d'a priori culturels, beaucoup moins d'arbitraires de classe, de codes liés à des appartenances, et permettraient donc une démocratisation de l'enseignement. Nous avons là une expérience qui a été faite grandeur nature, à l'échelle d'un pays sur 30 ans, nous avons des résultats très clairs. C'est le contraire. Il n'y a pas plus socialement sélectif que les disciplines scientifiques. En mettant l'accent sur la dimension mathématique et sur les savoirs abstraits logiques, on a abouti, au contraire, à une sélection sociale encore plus impitoyable que celle que réalisait effectivement la primauté d'une culture littéraire où la connivence rhétorique jouait un rôle effectivement important par ailleurs. C'est une expérience qui fait beaucoup réfléchir, hein, et qui permet, je crois, de distinguer de ce qui est vraiment l'objet dont il faut s'occuper, c'est les savoir-faire qui n'ont rien à voir avec des savoirs méthodiques, mais qui sont l'accompagnement obligatoire de tout apprentissage. C'est d'ailleurs ce qu'aujourd'hui on voit ressurgir du côté de la notion de compétence. C'est-à-dire, compétence, il ne suffit pas de savoir des choses, il faut encore savoir les utiliser. Et la compétence, dans le sens respectable de la notion qui par ailleurs est instrumentalisée à d'autres fins professionnelles, etc., la compétence, c'est une chose qui existe. C'est qu'en effet, il y a un savoir-faire qui permet d'utiliser le savoir, qui est d'un autre ordre. C'est d'avoir la présence d'esprit, le jugement, qui ça permet de savoir ce qu'il faut mobiliser dans telle et telle situation. Ça existe, indiscutablement. Je crois qu'on a affaire à quelque chose qui est d'un autre ordre, justement, que de l'arbitraire culturel ou de la connivence de classe, et dont il faut penser la consistance par soi-même et chercher à expliciter ces savoir-faire pour eux-mêmes, qui sont présents dans les savoirs scientifiques et logiques autant que dans les savoirs littéraires traditionnels. Je crois que c'est voilà l'enjeu de la question. Et évidemment qu'il comporte une dimension de classe, dans le sens où précisément ils empruntent la voie de la transmission et pas la voie d'une transmission qui se fait de manière spontanée, indirecte, et pas de l'aspect d'une démarche pédagogique explicite. Ça c'est vrai, mais pour autant ils ne sont pas un instrument de la classe dominante en vue de la reproduction de sa domination. Ils sont simplement un accompagnement d'une situation d'inégalité sociale à laquelle on peut remédier justement par l'explicitation. Et moi, le plus grand reproche que je fais aux disciples de Bourdieu et Passeron dans ce domaine, d'ailleurs c'est une chose dont j'ai eu maintes occasions de discuter, non pas avec Bourdieu, parce que c'était bien que c'était mon collègue, il était peu possible de discuter avec lui de manière générale. Passeron, ce n'est pas le cas, en revanche, et Passeron lui-même le reconnaît volontiers, rien n'a été fait dans ce domaine depuis les années 60. L'explicitation des savoir-faire qui accompagnent et dans le domaine scientifique tout particulièrement, l'acquisition des savoirs purement abstraits, logiques, dans leur progression rationnelle. De ce côté-là, on a très peu avancé, et pourtant, il y avait la possibilité d'aller assez loin. Hein, rien ne l'empêchait.
peu rebondir sur l'idée de savoir et savoir-faire. Je me demande si vous avez beaucoup insisté sur le fait qu'il y a une sorte de nécessité du maître qui soit là avec le savoir, qui soit un petit peu l'acteur premier de transmission. Vous avez rappelé l'importance de l'intergénérationnel et sur celui qui est là avant, donc qui connaît avant, celui qui ne connaît pas après. Au niveau des savoir-faire, je me demande s'il n'y a pas une réflexion à avoir aussi sur ce que j'appellerais plus la transmission horizontale qui peut se faire entre, je pense, entre les enfants qui apprennent ensemble, entre des étudiants qui sont ensemble. Est-ce qu'il n'y a pas là quelque chose à peu réfléchir aussi sur, notamment cet aspect du savoir-faire, plus que sur celui du savoir en lui-même, comment il peut y avoir une certaine mutualisation, un peu comme on a parlé du mouvement de l'éducation mutuelle là, au 19e siècle. Est-ce que vous avez quelques éclairages à nous apporter par rapport à ça?
Bien sûr, ça existe. Ça existe. Ça existe à tous les niveaux. Chacun sait que pour apprendre à mieux jouer au football, il vaut mieux appartenir à une bonne équipe qu'à une mauvaise. Au contact de meilleurs joueurs que vous, vous allez progresser. Donc c'est une expérience. On retrouve ça aujourd'hui à tous les niveaux. On a plus envie d'être dans une bonne équipe de chercheurs très réputés parce que l'effet d'entraînement et d'acquisition de cette dimension existe, évidemment. Et on peut en faire un bon usage. Je dirais. Néanmoins, si vous voulez, c'est une dimension très importante. Hein. Je ne songerai absolument pas à le minimiser. Je pense que l'intervention du maître, de l'adulte ou du patron d'une équipe, hein, à quelque niveau que ce soit et dans quelque registre que ce soit, parce qu'on a affaire là à quelque chose qui est tout à fait transversal par rapport aux différents domaines de l'expérience humaine. Ça se retrouve dans tous les secteurs d'activité. Je crois que l'intervention de quelqu'un qui a la conscience du problème et qui peut orienter cette opération de mutualisation qui a lieu dans tous les cas. Hein, parce que dès qu'il y a un groupe, il y a des effets de communication entre les personnes qui interviennent, c'est évident. Ajoute une dimension démultiplicatrice et qui plus est, une composante de réflexivité par rapport aux acteurs, qui est très importante. Si vous avez quelqu'un qui sait repérer dans une classe ceux, les gamins doués, qui sont très à l'aise dans le registre des savoir-faire, il peut aider les autres à leur faire, à comprendre où sont les bons savoir-faire, ce qui ne va pas nécessairement de soi. Parce que la mauvaise monnaie aussi peut chasser la bonne. Hein. Je veux dire, toute personne qui s'est trouvée devant une classe peut aisément, ou n'importe quel parent, peut aisément se représenter le fait que les mauvaises pratiques, les mauvais savoir-faire ont aussi une séduction certaine, contre laquelle il faut éventuellement lutter. Il y a des méthodes plus économiques que les autres, hein, on le sait bien. Et donc la capacité d'orienter ce processus, d'agir sur lui, de l'encourager, de le développer est très importante. Et surtout le fait de rendre les gens qui peuvent être des enfants ou des adultes conscients de ce qu'il y a des bonnes manières de faire et des moins bonnes. Les rendre conscients de ça, ça c'est quelque chose qui suppose l'intervention d'un tiers extérieur. D'ailleurs, je crois que ça ne se fait jamais simplement entre les personnes. Ça peut se faire, mais c'est mieux quand il y a quelqu'un qui est là pour orchestrer le processus et lui donner une dimension plus réfléchie. Mais ça veut dire en effet que être pédagogue, c'est aussi ça, c'est être capable d'observer la manière dont se passent les interactions, comme on dit, entre à l'intérieur d'un groupe et les encourager dans la bonne direction. Mais je pense que ça n'élimine, c'est vrai, mais ça n'élimine pas l'utilité, si vous voulez, de quelqu'un qui est là pour donner le tempo ou le sens de ce processus qui a lieu de toute façon.
demander, dans le fond, on assiste actuellement à une transmission inversée, c'est-à-dire que les enfants deviennent ceux qui apprennent, par exemple, l'informatique aux parents. Et bon, il y a un phénomène qui a peut-être toujours aussi, qui a toujours existé, puisque vous avez dit tantôt qu'on était des élèves, des enfants apprenants jusqu'à la fin de ce jour, mais il me semble qu'il y a quand même. Alors, est-ce qu'on peut parler encore de transmission? Est-ce que c'est autre chose? De quoi s'agit-il finalement dans ce système où ce n'est plus une horizontale ou une antérieure horizontale, on est au-delà, c'est l'après qui transmet à l'avant.
N'exagérons pas la portée du phénomène. Pourquoi les enfants apprennent à leurs parents l'informatique? Parce qu'ils l'ont apprise à l'école. Pas parce qu'ils l'ont apprise en naissant dans les choux. Les enfants au berceau de nos jours ne savent pas servir d'un ordinateur en dépit des progrès considérables.
Oui.
Voilà, vous voyez ce que je veux dire. Donc, c'est des effets de transmission scolaire prolongée. Les enfants sont les truchements auprès de leurs parents de l'éducation scolaire, tout simplement, dans un domaine où les parents sont, sauf s'ils ont un domaine professionnel d'expertise qui les oblige d'être eux-mêmes dans le coup et de suivre des formations dans ce domaine. Voilà. Hein, c'est un cas très particulier. Et si vous voulez, ça porte essentiellement, effectivement, sur l'usage des nouvelles technologies. Mais vous savez, beaucoup d'enfants d'immigrés apprennent à leurs parents la langue du pays dans lequel ils arrivent, comme par le passé, beaucoup d'enfants du peuple qui, par exemple en France, où il y avait des langues régionales très puissantes, ils apprenaient en fait le français standard à leurs parents. Donc ça a toujours existé en un sens, mais ça porte justement sur des choses très particulières. Ça n'enlève rien, à mon avis, aux phénomènes fondamentaux de la transmission. Marie-Claude Blais viendra vous en parler spécifiquement dans quelques temps, hein, je ne me rappelle plus quand, mais bientôt. La transmission familiale continue d'être, elle est plus que jamais efficace d'ailleurs, je veux dire, c'est bien notre problème d'inégalité aujourd'hui dans toutes nos sociétés. Ce qui est vraiment efficace, c'est la transmission familiale. L'efficacité du système scolaire diminuant, l'importance de ce qui est transmis par la famille, y compris en fonction du fait que les familles ont très inégalement conscience de la chute des performances du système scolaire, grandit. Et qu'est-ce qui se transmet effectivement par les familles? Le langage, à la base, c'est dans les familles que pour l'essentiel, les enfants apprennent à parler. Et ça n'est pas rien. On sait même que c'est absolument discriminant. La nouveauté de la situation où nous sommes étant que ça n'est plus simplement une affaire de classe, comme ça l'était de manière assez monotone il n'y a pas si longtemps, en tout cas de manière dominante. C'est aujourd'hui les familles enseignant, les familles les plus efficaces sur le plan éducatif, c'est pas mystérieux, dans tous les pays du monde développés, en tout cas, on a les statistiques qui l'attestent, c'est les familles d'enseignants. Ça veut dire au moins que les enseignants savent toujours enseigner, sauf qu'ils n'arrivent plus à enseigner qu'à leurs enfants. Mais c'est quand même une conclusion intéressante. Parce qu'ils savent notamment ça. Alors que des familles, tout ce qu'il y a de bourgeoise, tout ce qu'il y a de bien doté culturellement, tout ce qu'on veut, s'occupent très peu de leurs enfants sur ce plan. Au nom, justement, d'une idéologie de l'individu. C'est à toi de te débrouiller individuellement, c'est ton affaire, mon garçon, débrouille. Hein ? Donc ça ne marche plus de manière aussi mécanique en termes de classe, même si, globalement, ça reste, les corrélations restent fortes. Ce que on apprend dans les familles, c'est des choses du genre qui, plus que jamais, ce qu'on appelle la socialisation d'un mot atroce qui aujourd'hui ne veut plus rien dire tellement on l'a mis à toutes les sauces, mais c'est essentiellement à la fois des valeurs morales et des comportements de civilité. La civilité s'apprend toujours dans les familles. Et on sait que, par exemple, c'est en train de devenir quelque chose de totalement discriminant du point de vue du destin social des personnes. Le recrutement professionnel se fait là-dessus. On regarde ce qu'on appelle pudiquement le degré de socialisation. Si vous vous asseyez sur le bureau du directeur des ressources humaines, vous ne serez pas pris. La manière dont vous vous présentez socialement est absolument déterminante dans les profils professionnels recherchés. Hein. C'est très clair. Ça se passe dans les familles, fondamentalement. Et de même, tout ce que j'ai pointé tout à l'heure en parlant de savoir ésotérique, alors là, c'est particulièrement typique. On est musicien de père en fils, de mère en fille. Le goût esthétique, ça s'apprend dans les familles, fondamentalement. Hein, c'est dans ces domaines. Plus on a affaire, il y a les domaines par excellence. De même, on est mathématicien hein, par hérédité dans des proportions absolument écrasantes quand vous voyez quand on essaye de reconstituer les filières des gens les mieux dotés dans ce domaine. Il n'y a pas de mystère. C'est 80% des élèves des grandes écoles scientifiques en France viennent de familles qui avaient un très haut niveau d'éducation scientifique. Précisément. Parce que l'ésotérisme des savoirs dont je parlais, il se délivre dans les familles. Donc, le rôle, tout ça, hein, c'est parce que tout ça veut dire qu'il n'y a pas d'inversion là. On est toujours dans un. Il y a inversion dans un certain nombre de secteurs. Les enfants, et surtout par exemple, les adolescents apprennent à leurs parents une partie de la société dans laquelle ils vivent et dont ils ont une conscience limitée, nouvelle manière de parler, nouveaux usages, etc. Parce que c'est le front. Hein, la culture juvénile est le creuset d'inventivité de nos sociétés sur beaucoup de terrains. Mais ça n'empêche pas que des transmissions tout à fait fondamentales et déterminantes pour le destin social des personnes continuent de se jouer dans les familles. Et on constate avec stupeur en effet, l'accroissement des inégalités scolaires sans mesurer quelle est sa racine, qui est précisément la persistance de cette dimension de tradition, qui évidemment assigne à une école démocratique qui prétendrait être capable de corriger les fatalités de destin social une part essentielle de sa mission. Il s'agit de corriger ça. Si l'école ne prend pas en charge cette dimension de transmission par des moyens qui ne sont pas ceux des familles. Ça nous ramène à la question qu'on évoquait tout à l'heure à propos de Bourdieu. Si elle ne fait pas ça, ce sont les familles qui le font et les inégalités s'accroissent mécaniquement. Parce que, en revanche, les milieux populaires aujourd'hui, pour d'autres raisons, ont de moins en moins, notamment parce qu'ils ont perdu cette culture autoritaire, on peut s'en féliciter par ailleurs, mais qui faisait leur efficacité éducative. Les milieux populaires ont une efficacité éducative de plus en plus limitée. C'est aussi une des choses qu'il est difficile d'évoquer, mais qui fait partie des secrets de Polichinelle de la situation de l'enseignement dans nos sociétés. Donc, pas transmission inversée, n'exagérons pas.
Donc, je parle d'un endroit où je pratique dans la pédagogie active depuis 30 ans. Et donc, peut-être que de manière étonnante, je suis d'accord avec tout ce que vous dites. D'autant plus que vous avez précisé au départ que le modèle actuel était l'activité individuelle de l'enfant. Mais vous n'avez pas dit grand-chose sur l'activité collective, sur ce qu'on peut entendre, ce qu'on peut attendre de l'activité collective des enfants. Et l'endroit où je voudrais le plus intervenir dans tout ce que vous avez dit, c'est quand vous avez énoncé lire, écrire, compter, et que vous avez comparé ça à l'apprentissage, par exemple, de la musique ou du sport. Je trouve que c'est un boulevard ouvert devant des dizaines d'enseignants qui on dit et redit « faites des feuilles de calcul » ou des lectures et des lectures, qui n'ont finalement pas de sens pour les élèves. Alors je sais que la question du sens est une question complexe, mais disons que voilà, pour faire court, j'aimerais bien que vous puissiez articuler ou voir si vous êtes d'accord avec l'idée que transmission et activité, c'est absolument pas antinomique.
Ça, je n'ai aucune difficulté à reconnaître qu'il n'y a pas du tout d'antinomie, mais que historiquement, ça s'est présenté comme antinomique. Et c'est l'erreur dont il faut que nous sortions. Il y avait à cela de très forts motifs, parce que transmission s'articulait sur tradition. Eh bien, nous sommes aujourd'hui dans la situation, qui nous facilite les choses, de pouvoir penser transmission sans tradition. Il ne s'agit pas d'imposer des manières d'être ou des modèles déjà là, qui forcément se présente comme antinomique par rapport à la libre expression individuelle. Donc, nous sommes dans une bonne position pour repenser la transmission hors de la tradition, qui était en fait la dimension sociale qui pesait là derrière et la rendait peu sympathique, il faut bien le dire. C'est la grande dissociation qui s'est opérée, qui nous permet de revoir autrement le problème. Et de la même façon, je crois que un peu de volonté de privilégier l'activité individuelle des élèves éloigne de la transmission, mais beaucoup y ramène. Parce que quand on réfléchit sur quel est le but de cette activité individuelle, il est effectivement d'apprendre au sens dont j'ai parlé, c'est-à-dire notamment sur le plan fondamental, de rejoindre toujours quelque chose comme une communauté de ceux qui savent. L'objet de l'enseignement, c'est de créer une communauté des esprits. Et de ce point de vue-là, on retrouve bien quelque chose qui relie l'activité individuelle à une dimension de transmission d'essence collective. Donc, il n'y a pas du tout d'antinomie, justement. Et nous sommes dans les conditions où nous pouvons mieux articuler ces dimensions indépendamment des débats idéologiques dans lesquels tout ça s'est joué il y a des décennies maintenant et qui n'ont plus d'intérêt qu'archéologique. Et il faut surtout cesser de jouer ces guerres du passé qui n'ont plus lieu d'être. Parce que de toute façon, on pourrait essayer de restaurer l'enseignement traditionnel. Je souhaite bonne chance aux gens qui essaieraient de le faire sérieusement. J'aimerais savoir comment ils vont s'y prendre. Je serais très curieux de voir ça. Ça serait une expérience intéressante. C'est simplement impossible. Donc, il faut prendre acte de la nouveauté de la situation dans laquelle nous sommes. Et en un sens, la situation est à la fois difficile, mais en un autre sens, tout à fait favorable, parce que précisément, nous pouvons sortir de guerres de tranchées qui n'ont absolument plus lieu d'être.
Merci. Bonjour. Vous distinguez très souvent le savoir et le savoir-faire. Est-ce que dans les savoir-faire, c'est autre chose que la médiation de l'enseignant que vous recommandez sur le... comment apprendre, pourquoi apprendre et le plaisir d'apprendre. C'est autre chose, ce savoir-faire. Ou si vous pouviez, par exemple, donner un exemple de savoir-faire distinct du savoir. Parce que c'est autre chose que les trois concepts que je viens de dire.
Les trois choses que vous avez évoquées peuvent être des accompagnements. Rien n'empêche. En effet, le plaisir d'apprendre ne se décrète pas. Hein ? Bon. Très bien, s'il est là, parfait. Mais on ne peut pas en faire un moteur dans la mesure où on n'a pas la maîtrise de son déclenchement. On peut le viser, mais on ne peut pas être sûr de son arrivée. Mais si vous voulez, prenons Justement, prenons les choses au plus haut niveau, parce que c'est là, d'une certaine manière, où elles sont les plus lisibles, paradoxalement. Avec des enfants, très souvent, savoir et savoir-faire se confondent. Là, c'est. Hein, parce que ces savoir-faire sont très élémentaires. Et même s'il y a lieu de faire des distinctions. Mais j'évoquais tout à l'heure, et je vous renvoie de ce point de vue-là, au livre de Françoise Vaquet que j'évoquais. Dans le domaine de la recherche scientifique la plus exigeante, elle a étudié justement un corpus tout à fait passionnant, qui est celui des éloges nécrologiques ou posthumes dans tous les cas, des élèves envers des maîtres, dans l'ordre des sciences dures. On pourrait dire, dans ce domaine, comment des chercheurs de haut niveau peuvent-ils se reconnaître des maîtres? Ça n'a aucun sens. Eh bien si, dans l'ordre des savoir-faire. C'est-à-dire qu'on était là face à nos... des mathématiciens, on était là face à un problème. Et à chaque fois... il nous apprenait comment il fallait s'y prendre avec ce problème. C'est le comment. C'est le mais par quel bout on le prend. Mais vous avez ça dans d'autres exemples sur comment on pose une question dans l'ordre alors théorique. Comment c'est des choses qui ne sont pas dans l'objet scientifique lui-même. Un jeune mathématicien de mes amis qui partait dans une université fort loin, alors que je sais par ailleurs qu'il n'est pas spécialement porté sur le tourisme en général, qui disait, mais pourquoi en mathématiques on n'a pas besoin de ça? Il me disait, si, parce que rien de ce qui est écrit dans leurs articles ne me permet de comprendre, des gens chez qui il allait, comment ils font. On y revient. Même dans des mathématiques très abstruses, c'est pas la déduction logique qui vous permet d'arriver au traitement d'un problème. C'est une manière de circonscrire la difficulté, de l'aborder du biais par lequel on l'apprend. C'est un savoir-faire d'un genre très sophistiqué, puisqu'il implique une maîtrise théorique du domaine. C'est pas du bricolage. C'est pas de simplement, mais c'est néanmoins d'un autre ordre. Et on sait très peu là-dessus. On a très peu d'explicitation de ce phénomène.
Sur le pourquoi, le mot savoir-faire n'est plus très bien approprié. Hein,
non.
Pourquoi? Comment savoir très bien? Comment savoir-faire très bien? Pourquoi apprendre? Il faudrait peut-être alors, vouloir faire. Enfin, je sais pas. Hein,
non, mais alors au niveau de le niveau pourquoi apprendre. Il ne se pose plus au niveau de la recherche fondamentale que j'évoquais à l'instant. On suppose que les gens qui sont là savent pourquoi ils sont là. C'est qu'à un niveau beaucoup plus élémentaire que ça se passe. Et là, on retrouve exactement la même chose. C'est, en fait, sous un autre angle, c'est tout simplement la supériorité ou l'exemplarité des gens qui, eux, savent. C'est-à-dire, c'est l'incarnation personnelle d'une certaine aisance ou d'une certaine maîtrise dans l'abord des questions qui vous donne l'impression que vous avez tout intérêt à l'acquérir. On est bien dans de la transmission, parce que ça passe vraiment par une relation personnelle, qui peut être très variée. Ça peut être le bon élève de la classe, ou le maître, ou un adulte que vous connaissez par ailleurs, ça n'a rien... donne du sens par la manière dont la maîtrise qu'il a de la connaissance vous donne envie de l'avoir. Ça s'incarne là aussi toujours de manière très personnelle. Voilà. C'est de savoir-faire, c'est-à-dire que c'est pas le fait qu'il le sache, il n'en parle jamais, mais la manière dont il l'incorpore personnellement et dont il en fait quelque chose dans son existence, de la manière la plus familière, qui donne du sens pour vous au fait de « j'ai envie de savoir ce qu'il sait ». Parce qu'il en... Voilà.
Ceci dit, c'est pas forcément en face à face.
Non, bien sûr que non.
Sinon, vous nieriez l'importance de vos livres.
Bien entendu.
On lit sans vous avoir rencontré.
Bien évidemment. Donc, c'est une dialectique. Entre le, il y a besoin d'une communication abstraite, générale, ouverte. Nous vivons dans un univers de savoir impersonnel, dont le livre, à côté de bien d'autres moyens, est l'exemple même. Nous sommes capables de lire les livres de gens morts depuis très longtemps et d'y trouver de l'intérêt. Mais ces livres, éventuellement, vont nous parler, d'autant plus que nous aurons trouvé sur notre chemin, et ça peut être absolument en dehors de l'école et n'importe où, quelqu'un qui est capable de nous en parler d'une manière qui nous fait penser que c'est vraiment intéressant de s'y plonger. En fonction de ce qu'il en a fait, pas en fonction du savoir qu'il vous déverse. Et on sait très bien, justement, que c'est très souvent, à la limite, en dehors de l'enseignement, que les enseignants enseignent. Parce que par les conversations qu'ils ont avec leurs élèves ou leurs étudiants, sur un niveau très familier, c'est là que ça se passe. Parce que autre chose, c'est clair que ce qui se passe simplement dans une démarche construite qui s'adresse à tout le monde, l'échange interpersonnel a des effets prodigieux et inattendus. On ne peut pas les calculer en même temps. C'est bien pourquoi on est dans une transmission et pas dans une pédagogie rationnelle où on pourrait maîtriser ce genre d'effet. Mais ça existe. Donc on le retrouve, quelqu'un qui vous donne... Je vous cite, c'est tout à fait anecdotique, mais ça répond à votre question sur le plaisir d'apprendre. Un grand journaliste me racontait, peu importe les circonstances, ce qui lui avait donné envie d'être journaliste en dépit. Et pour tout vous dire, je m'en étonnais auprès de lui en lui demandant pourquoi tu es devenu journaliste, parce que franchement, tu avais mieux à faire dans la vie. Il dit oui, je sais, c'est personnel. Tout simplement, je suis aliéné à ça parce que. Alors vous voyez, c'est compliqué, aliéné. Parce que j'ai été hypnotisé quand j'étais gamin par le plaisir que mon père prenait à lire le journal. Il y avait une heure tous les jours quand il rentrait du bureau où il était impossible de lui parler, il lisait le journal. Et c'est le seul moment de la vie où j'avais l'impression qu'il était heureux. Ça m'a fasciné et je me suis dit, il doit y avoir là quelque chose d'absolument irrésistible. Et ajoutait-il, j'ai jamais retrouvé ce plaisir moi-même, mais enfin c'est toujours ce cas.
Bonjour, je suis professeur de physique, je ne suis pas du tout pédagogue, je ne pensais pas du tout votre sens, mais tout à l'heure j'allais vous poser la question, comment se fait-il qu'au cours de votre exposé, qui soit trop bien par ailleurs, comment se fait-il que vous n'ayez pas prononcé le mot compétence, mais il se fait que vous l'avez prononcé tout à l'heure, donc je retire cette question-là. Donc la deuxième question, c'est comment se fait-il que dans votre exposé, vous n'ayez pas fait allusion à la direction qu'a prise notre enseignement belge depuis 1997, depuis le décret en public, qui nous impose à nous, enseignants du secondaire, de suivre cette voie qu'on appelle l'approche par compétence ou pédagogie par compétence, qui a provoqué un malaise au niveau mondial au Québec. Il y a eu un mouvement qui s'est appelé Stoppons la réforme, parce qu'ils ont appliqué cette pédagogie à l'extrême, en laissant tomber les savoirs et en misant tout sur l'approche par compétence. Bon, en Belgique, en France, au Québec, en Argentine, un peu partout, il y a un malaise. Alors le malaise vient justement, enfin pour plusieurs raisons, mais on nie un peu l'importance du professeur, de la transmission. On insiste plus sur ce que l'élève doit être capable de faire à la fin de sa scolarité, et on insiste plus là-dessus et sur l'évaluation de cela, hein, plus que sur la façon de transmettre. Dans toutes les consignes que nous recevons, les consignes officielles qui viennent de l'inspection à nous les enseignants, ces consignes insistent non pas sur la façon de transmettre un savoir, mais sur la façon d'évaluer des compétences que les élèves auraient acquises. Autrement dit, on travaille en aval au lieu de travailler en amont. Voilà, et c'est ça que je voulais soulever ici. C'est pas vraiment une question, c'est disons une remarque. J'étais un peu étonné que vous ne parliez pas de ce malaise, parce que le malaise, il est réel. Parce que nous, les enseignants, les gens de terrain, quand on voit arriver ces consignes, on les sent complètement artificielles. On a vraiment l'impression que ça vient de gens qui ne sont pas dans le métier, hein, qui structurent des consignes et qui ont l'air très rationnels, mais qui, dans la pratique, ne fonctionnent pas. Voilà. Merci.
Donc, j'ai pas la prétention de parler...
Hein,
non.
C'est bien, je suis polémique.
Non, vous n'êtes pas du tout polémique. Je ne peux pas parler de tout dans un seul exposé, même long. Voilà, c'est tout. C'est une... Vous... Le point que vous soulevez correspond à un dévoiement de la notion de compétence, qui est en effet une des tendances lourdes de l'enseignement d'aujourd'hui, orchestrée à une échelle internationale en plus, par la prise de pouvoir en gros, d'une conception économique dont le foyer de l'enseignement, dont le foyer se trouve à l'OCDE. Hein, c'est là que ça se passe. Bon. Mais alors, justement, ça veut dire là qu'on a affaire à un dévoiement idéologique de la notion de compétence, qui renvoie par ailleurs à quelque chose qui n'est pas faux. Il y a un noyau rationnel de la notion de compétence qui est parfaitement acceptable et qu'il faut délimiter. Là, c'est autre chose. C'est une religion... c'est un problème très compliqué, je ne peux pas le traiter en 2 minutes, mais du point de vue idéologique, ça correspond à quelque chose d'assez invraisemblable. Ce qui nous intéresse, en gros, le point de vue des gens qui valorisent ça, c'est ce que les gens sont capables de faire parce qu'ils savent. Voilà. Il y a d'abord une dimension behavioriste qui est incroyable, hein, c'est-à-dire à l'arrivée, le point qui nous intéresse, c'est pas ce qui leur permet de résoudre un problème, c'est le fait qu'ils soient capables de le résoudre. On juge ex post le résultat. Alors que précisément toute la philosophie de l'enseignement, qui me pend une philosophie indépassable, c'est une philosophie de l'anticipation. On raisonne sur la construction des moyens qui permettent à des élèves de résoudre des problèmes. Il est vrai que la manière dont on le faisait, et c'est là où la notion de compétence n'est pas entièrement absurde, si on ne la prend pas dans cet usage idéologique, on peut avoir les moyens et pas savoir s'en servir. Là, il y avait un vrai problème d'un certain type d'enseignement. On est d'accord. Donc, c'est dans cette brèche que s'est engouffré ce détournement, qui est porté par une certaine théorisation, qui est une théorisation, en fait, pragmatique, radicale, contre la notion... Une philosophie qui ne veut voir que les résultats, sans se préoccuper des procédures intellectuelles par lesquelles on arrive à ce résultat. Et qui, en dernier ressort, est évidemment une aberration. Mais là, c'est un problème théorique. C'est un problème, alors là, de philosophie, de ce que veut dire apprendre, savoir, connaître. Hein, c'est vraiment... Et le tout gouverné, en effet, par l'idée, en réalité, d'adaptabilité de la main-d'œuvre. Il s'agit de fabriquer des gens capables d'acquérir rapidement les moyens de s'adapter à des process de production ou de service, peu importe d'ailleurs, changeant rapidement. Et donc, ne posant pas trop de questions sur le fond. Voilà. Bon.
J'ai une sous-question. Mais qu'est-ce qu'on peut faire pour essayer de changer ?
Eh bien, il faut... On ne peut y arriver, et ça n'est pas de la tarte, qu'en démontrant la fausseté radicale de la construction intellectuelle sur laquelle repose cette orientation.
Vous savez, ce que vous dites là, je suis d'accord avec vous, mais les résultats sont faussés par le fait que les enseignants ne partent. Je veux dire, ils font tout pour que leurs élèves arrivent à réussir le test.
Bien entendu.
Et Et donc, quand ils réussissent leur test, enfin, leur examen, ceux qui défendent la pédagogie par compétence vont dire, mais voyez bien, c'était possible puisqu'ils y sont arrivés.
Oui.
Mais on oublie la finalité de l'enseignement qui est de structurer la pensée de l'élève.
Oui.
Les résultats en eux-mêmes peuvent être interprétés en faveur de ceux qui défendent la pédagogie parce qu'il y a moyen justement de détourner le résultat.
Bah, oui, bien sûr. On ne fait que ça, et tout le secret de ces fameux tests PISA avec lesquels on nous bat les oreilles repose très exactement là-dessus. Les tests PISA obtiennent des résultats mirifiques là où on prépare les élèves aux tests PISA. Voilà une belle démonstration. Ce qui est effectivement le cas de la Finlande et de la Corée. Parce que ce qui est assez curieux, vous le remarquerez, parce que très franchement, c'est pas deux pays qui se ressemblent. Sauf sur un point, on y prépare les élèves au résultat du test. C'est la convergence. Mais tout ça, il faut le dire, noir sur blanc, et on a affaire à forte partie, parce que cette expertocratie internationale, elle a une solide implantation institutionnelle. Mais c'est une... Il y a d'ailleurs des tas de choses qui se font. Le pays pionnier de ces expérimentations, c'est effectivement le Canada, le Québec en pointe d'ailleurs. Il y a là-bas toute une forte résistance maintenant qui s'est... C'est un problème intellectuel. On ne peut se tirer de cette affaire qu'en montrant la fausseté radicale de la théorisation qui nous est proposée au travers de ça, les détournements de la notion de compétence. Mais il faut faire très attention. Moi, je vois bien, en France, je connais mieux, tout simplement, banalement, par proximité, les termes, ça conduit les gens à rejeter radicalement la notion de compétence. Et je pense que c'est une erreur. Parce qu'il y a un vrai problème derrière cette notion. Hein ? Il faut faire très attention. Mais c'est une lutte intellectuelle.
Vous savez que Marcel Paillet a dit que c'était une mauvaise solution pour un vrai problème.
Ça me paraît une bonne manière de le dire.
Bonjour. Je vais rejoindre le propos que vous venez d'avoir. En ce sens que il semble que le problème que vous évoquez, celui de la transmission, il a déjà été soulevé précédemment, je pense, à Anna Arendt dans son texte sur la crise de l'éducation. Et ce qui m'inquiète, c'est que vous vous réjouissez maintenant qu'on peut sortir d'une guerre de tranchées. Intellectuellement, on va enfin pouvoir poser la vraie question de savoir ce que c'est la France. Mais je pense qu'il y a une urgence terrible, c'est que vous avez effectivement, on vient de l'indiquer, un système qui s'est mis en route, qui s'est mis en place. Et si je reprends, vous avez surtout évoqué en plus le grand capital du système de la Côte-à-Pierre, mais dans le texte d'Anna Arendt, quand elle évoque le problème de la transmission et de la crise de l'éducation, elle évoque aussi la perversion qu'il y a du thème de la démocratisation, en disant, globalement, si je résume, oui, il vaudrait mieux que tout se fasse par interaction entre pairs, mais ce qui se perd, si je puis dire, c'est justement ce que vous avez bien évoqué, c'est l'admiration du maître pour un objet qui n'est pas à une recherche de maîtrise, hein, mais qui est je suis admiratif et étonné par tel objet physique ou autre, ou littéraire. C'est comme ça qui est premier et qui va emballer à un moment donné autour d'une question problème. Et là, on peut retrouver la question des compétences, et là, je ne la rejette pas. Mais je trouve que ce qu'il faut ajouter à l'idée du grand capital qui peut être derrière, c'est la perversion du thème de la démocratisation, de l'idée qu'on va reconstruire par les pairs. Voilà, je pense.
Écoutez, je vais prononcer des paroles de sacrilège, mais je dois dire que cette brave Anna Arendt, qui a d'immenses mérites par ailleurs, n'a pas arrangé nos affaires. Parce que je crois qu'elle a installé une confusion durable dans le secteur dont il serait temps de sortir. Et je crois qu'elle a vraiment son usage aujourd'hui envoie les gens dans le mur au lieu de les éclairer. précisément, si vous voulez, je n'ai pas voulu du tout me situer sur ce terrain, hein, mais ce que j'ai essayé de montrer, c'est que ce qu'elle déclare indissoluble est en fait tout à fait susceptible d'être disjoint. La transmission existe indépendamment de la dimension de tradition qu'elle déclare précisément consubstantiellement liée à celle de transmission. Eh bien, c'est pas vrai. Et je pense qu'on y voit beaucoup plus clair quand on arrive à séparer les deux termes. Si on lit les deux, on est foutu. Parce que de toute façon, la tradition, vous pouvez aller la chercher quelque part dans le monde où nous sommes, vous ne la trouverez pas. Alors, si elle a raison, nous sommes morts, nous repartons tranquillement à cultiver notre jardin. Parce qu'il n'y a rien à faire et attendre que tout se casse la gueule sans aucun espoir de solution. Ce n'est pas le cas. La tradition est une chose. La tradition a présidé pendant très longtemps à la transmission. On enlève la tradition, il y a toujours de la transmission. Elle est à penser pour elle-même et elle peut être pensée dans de tout autre terme, tout à fait moderne, hors de la dimension de transmission. Je dirais la même chose pour ce qui concerne la démocratisation. Elle a attiré, à très juste titre, l'attention. Si, c'est pourquoi il faut en parler. J'aime pas polémiquer avec elle, parce que, comme toujours, il faut. C'est un calcul à la fois de la dette et des problèmes que pose cette dette. Hein. Donc, supposons, c'est un auteur respectable, je n'ai pas envie de. Mais il faut bien voir les dégâts qu'elle fait. Il y a des choses tout à fait justes dans sa critique de la démocratisation, mais qu'observons-nous ? Est-ce que nos systèmes fonctionnent à l'avantage de la démocratisation ? C'est le contraire. Il y a une démocratisation idéologique. Certes, c'est l'affichage officiel des politiques de démodernisation de nos systèmes d'enseignement depuis 50 ans. Mais est-ce qu'ils aboutissent à une démocratisation ? C'est l'inverse. Ils conduisent à une dédémocratisation et même à une castification de nos systèmes d'enseignement. C'est donc bien qu'il y a autre chose. Et c'est pourquoi, personnellement, je pense qu'on peut tout à fait reprendre l'idée de démocratisation, mais dans son vrai sens. C'est-à-dire comme un objectif dont il faut calculer les moyens. Et nous voyons bien que la pseudo-démocratisation que dénonce Hannah Arendt est en réalité le moyen, le vecteur de l'inégalité. Donc la recherche de systèmes d'enseignement plus égalitaires et authentiquement démocratiques dans leur inspiration de ce fait ne me paraît nullement aller dans le sens de la pseudo-démocratisation qu'elle dénonce. Vous voyez, je crois, autrement dit, qu'il faut complètement sortir des termes dans lesquels elle a posé le problème. Elle les a posés dans les années 50. Hein, à propos des États-Unis, nous sommes plus de 50 ans après, dans un tout autre contexte culturel. Je crois qu'il faut se dégager de la grille de lecture qu'elle nous a proposé, même s'il y a toujours beaucoup à en apprendre, si nous voulons nous y retrouver dans la situation où nous sommes, qui est à penser pour elle-même.
Ok. Je pense que... Monsieur là-bas, une dernière question alors.
Oui, je vais la poser sans micro. J'ai le plaisir de vous lire depuis de très nombreuses années, et depuis moins de temps, j'ai le plaisir de vous entendre et de me risquer de temps en temps à vous poser une question. Alors, j'étais là il y a une quinzaine de jours, lorsque vous avez fait une conférence à partir de votre dernier livre sur l'avènement de la démocratie à l'épreuve du totalitarisme, et je vous entends aujourd'hui, et je ne peux m'empêcher de remarquer des homologies structurelles.
On ne se refait pas.
Je voudrais pointer un point précis, des homologies effectivement entre ce que vous développez d'un point de vue très macro et historique, et puis ici dans la problématique de l'enseignement, de l'éducation. Et je voudrais vous poser la question à propos de ce que vous appelez le régime mixte des modernes. dont je ne suis pas tout à fait certain d'ailleurs d'avoir compris entièrement ce que vous entendez par là. Mais d'une certaine façon, ce que vous dites aujourd'hui, c'est que la transmission dans la tradition, effectivement, que l'on peut mettre en relation avec un système hétéronome et la construction, l'enseignement, l'éducation centrée uniquement sur la construction autonome, ou quelque part, ce serait le mythe du baron de Münchhausen, où tout le monde pourrait se tirer de la boue ou de je ne sais quoi en tirant sur ses bottes. Hein, et quelque part, ce que vous nous apprenez aujourd'hui, en essayant de nous apprendre à voir clair dans ce maquis et dans ce brouillard où il reste effectivement, et ça me semble être un enseignement essentiel, de l'opacité et de l'irréductible, pour prendre vos termes, et que quelque part cet équilibre qui est à chercher entre la transmission et la construction ne s'apparente pas d'une manière ou d'une autre à ce que vous appelez le régime mixte des modernes au niveau sociétal.
Vous avez tout à fait raison, précisément parce que je ce que vous dites est parfaitement juste. D'une manière générale, si vous voulez, le problème posé par le monde contemporain est et d'une manière très compréhensible, parce que, en gros, nous sommes sortis de systèmes dont la cohérence était assurée par un cadre religieux est très explicite ou tout à fait implicite, peu importe. Nous sommes dans des sociétés où se sont libérées des contradictions et des unilatéralismes massifs, hein, dont les oppositions dans le champ pédagogique sont un exemple parmi d'autres. C'est vraiment la situation de pensée généralisée du monde contemporain. Et c'est contre quoi une critique intellectuelle motivée me paraît précisément devoir s'inscrire. C'est de démonter ces unilatéralismes pour chercher à retrouver une cohérence qui ne peut plus être d'ordre religieux, en tout du point de vue de quelles que soient les options personnelles qu'on a par ailleurs, c'est totalement indépendant, mais à l'échelle collective, c'est une cohérence d'ordre intellectuel et social, laïque, entre guillemets, indépendante, hein, et purement rationnelle, indépendante de toute option sur l'au-delà. C'est l'obligation où nous sommes dans les différents registres d'activité, dont le mal chronique est précisément cette espèce de partage idéologique, le plus souvent infondé, mais qui ont des effets ravageurs sur la pratique collective. Et le domaine de l'éducation est typique à cet égard, comme l'a été pendant longtemps le champ des affrontements politiques. De ce point de vue, il y a en effet une homologie qui tient à la situation intellectuelle générale qui est celle du monde contemporain.
Merci beaucoup, Marcel Gauchet.